RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis. On continue de parler de la parentalité dans cette émission avec Apprenti d'Auteuil, cette fondation qui a pu mettre en place depuis de nombreuses années quelques dispositifs, quelques programmes de soutien à la parentalité. On va vous en présenter très concrètement jusqu'à 11h et puis toujours avec vos réactions, vos témoignages. Dites-nous si vous avez déjà rencontré des difficultés dans l'éducation de vos enfants, ou si vous en rencontrez actuellement, comment vous faites? Est-ce que vous êtes accompagné peut-être par Apprenti d'Auteuil ou par une autre association? Venez apporter vos témoignages, ça pourrait en aider plus d'un qui rencontre quelques difficultés avec leurs enfants. 04 72 38 20 23, c'est le numéro à composer pour venir à l'antenne. 04 72 38 20 23, vos messages par mail direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
On parlera également du magazine La Vie à 10h20 avec Stéphanie Combe, qui est journaliste pour le magazine, et elle nous présentera en avant-première les grands dossiers qu'on pourra lire jeudi dans le nouveau numéro. Pour discuter avec nous de tous ces dispositifs qui existent avec Apprenti d'Auteuil, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Noémie Thiesson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Sur RCF, vous êtes responsable de la maison des familles de Vauvelin.
Exactement.
C'est dans la région lyonnaise. Vous nous présenterez plus concrètement dans un instant comment vous travaillez avec les parents, avec les enfants. Bonjour Martin Menu.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Merci d'être avec nous en studio à Lille.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes à Paris, pardon. Vous êtes coordinateur d'Écoute Info Famille. C'est un dispositif qui a été créé il y a une vingtaine d'années déjà par Apprenti d'Auteuil, qui fonctionne par téléphone. C'est un peu Absolument. Une plateforme d'écoute que vous allez nous présenter là aussi dans un instant. Bonjour Ousmane Sougoufara.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. C'est bien vous qui êtes à Lille actuellement. Vous êtes vous êtes médiateur familial Apprenti d'Auteuil. Vous nous présenterez vos fonctions, vos objectifs aussi dans votre quotidien de médiateur familial. Dans un instant, notez que à 10h30, Anne Kerléo nous rejoindra. Anne Kerléo que vous connaissez sur RCF et qui présente depuis la rentrée une émission qui est diffusée chaque mercredi qui s'appelle Yap, y a pas de parents parfaits. Noémie Thiesson, je commence avec vous pour la maison des familles de Vaux-en-Velin. Ce n'est pas un dispositif direct d'Apprenti d'Auteuil, c'est une plus large collaboration.
Exactement. Alors nous, en tout cas sur Vaux-en-Velin, on est une association loi 1901, portée par des membres fondateurs qui sont Apprenti d'Auteuil et Secours catholique. Et comme le disaient les collègues juste avant nous, Apprenti d'Auteuil a une expertise, effectivement, en tout cas sur le territoire de Vaux-en-Velin, plutôt sur l'éducation. Et le Secours catholique a une expertise plutôt sur la précarité. Et en fait, l'idée, c'était de se rencontrer et d'ouvrir cette maison des familles qui a aujourd'hui 4 ans.
Pourquoi vous l'avez rejoint, cette maison des familles?
Pourquoi je l'ai rejoint? Parce que mon parcours me fait dire que je suis profondément animée par la question de la relation. Et je pense qu'au sein d'une maison des familles, au sein d'autres établissements évidemment, mais que la question de la relation, elle est au cœur de notre action au sein des maisons des familles. Et parce que la question de la parentalité, c'est une question qui me traverse personnellement. J'ai 2 enfants, mais aussi parce que effectivement, quand on est en situation de précarité et qu'il faut affronter différents événements, comment on conjugue cette question de parentalité et de précarité? Voilà.
J'ai l'impression, en tout cas d'un regard assez extérieur, que vous faites beaucoup de choses dans ces maisons des familles. Pourtant, pour vous, ça peut être très banal.
Oui. En tout cas, dans les maisons des familles, on dit souvent qu'on fait des activités très, très simples et qu'on n'est pas un lieu de distribution d'activités, d'ailleurs. On a des moments forts. On a beaucoup de moments informels aussi. Tout à l'heure, on parlait de la question de la parole. Tout est prétexte à la parole. Tout est prétexte pour faire alliance avec les parents. Donc, on a des temps forts, des temps de repas partagés. On a des temps de parole qui existent, qu'on appelle les YAP. Il n'y a pas de parents parfaits, qui sont aujourd'hui devenus une émission radio. Et puis aussi parce que tout est prétexte à écouter ce que souhaitent les parents, partir des besoins des parents et de se dire, bon, bah, bingo, tiens, et si on lançait un projet là-dessus?
Qu'est-ce qui anime profondément ces maisons des familles? Alors celle de Vau-en-Velin peut-être en particulier, c'est le lien social, c'est la relation à l'autre avec les parents, avec les enfants aussi.
C'est la question de l'authenticité. Oui. J'aimerais mettre ce mot de l'authenticité et de la question de la parentalité. Les maisons des familles, notre porte d'entrée, c'est le parent. Il y a l'enfant derrière, mais en tout cas, c'est le parent. Et ce qui nous anime profondément, c'est de vivre des moments forts, de jouer ensemble, de rire ensemble, de partager ensemble et de sortir effectivement de cette question d'isolement que rencontrent de nombreux parents qu'on peut accueillir aujourd'hui.
Martin Menu, pour Écoute Info Famille, on l'a dit, c'est un dispositif qui existe depuis une vingtaine d'années. Là aussi, le fonctionnement est très simple.
Le fonctionnement est très simple. En fait, on reçoit des appels téléphoniques du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Et l'idée, c'est d'avoir une personne à qui parler. Aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup frappé, vous avez dit que le dispositif il existait depuis 20 ans, c'est que dans le système, la société dans laquelle on est, on a beaucoup de boîtes vocales, on a beaucoup de sites internet, on a beaucoup de standards téléphoniques, on n'a pas beaucoup de gens à qui parler.
Et des vrais gens.
Ouais, des vrais gens. C'est vrai que le système il est tout simple. En fait, vous vous appelez. Je peux peut-être vous donner le numéro de téléphone tout de suite à l'antenne.
Bah, si vous voulez, mais de toute façon, on aura l'occasion de le redonner à la fin de l'émission.
Ouais. Très bien. Donc je le donne quand même. C'est le 01 81 89 09 50. En fait, les personnes nous appellent et puis échangent avec nous sur les soucis qu'ils se font au sujet d'un jeune. Les personnes qui nous appellent, c'est essentiellement des familles à 80%. Ça peut être aussi des professionnels à 20%. Mais ce qui les rassemble, c'est l'idée qu'ils se font du souci en fait au sujet d'un jeune.
Pas forcément de son enfant, de ses enfants. Hein. Ça peut être aussi des jeunes qu'on rencontre.
Oui, tout à fait. C'est le cas des professionnels qui nous appellent, où ils connaissent une situation et donc ils cherchent de l'aide de quelqu'un à qui parler ou des adresses à qui s'adresser. Nous, on suit pas de situation en particulier. On est là pour faire le lien avec des dispositifs qui existent par ailleurs. Ça peut être des dispositifs de la Fondation d'Auteuil. Ça peut aussi être, bien sûr, des dispositifs en dehors de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Et voilà.
Ousmane Sougoufara, vous êtes médiateur familial. Vous êtes médiateur diplômé d'État. Je me permets de le souligner. Qu'est-ce que vous faites, apprenti d'Auteuil? Comment ça fonctionne, un médiateur familial?
Alors, donc, disons qu'un médiateur familial, apprenti d'Auteuil, donc son travail consiste à permettre, donc là spécifiquement ce que je fais, un parent et son enfant pouvoir échanger sur des conflits, sur des choses très difficiles, et leur permettre de reconstruire le lien ou de le déconstruire, donc de le remettre leur projet en main. Mais le plus important vraiment, c'est qu'ils puissent échanger sur des difficultés passées. Voilà, ça c'est en général ce que je fais en tant que médiateur. Après, la structure dans laquelle je travaille, nous avons également d'autres casquettes. Je travaille de manière assez transversale avec les différents services de l'AMEX. Et par conséquent, je fais aussi un peu de soutien à la parentalité avec l'AOJ, donc c'est l'accueil éducatif des jours. Donc, qui consiste là, effectivement, à apporter toute la technique d'aide à la communication portée par le médiateur et permettre ainsi à des parents de pouvoir partir de leurs compétences d'abord et de pouvoir les soutenir dans ce rôle-là. Quoi. Voilà.
Donc, ce sont les juges, on va dire, qui vous envoient des familles, des parents, des enfants.
C'est ça. Ça revient également le troisième volet, qui sont des visites médiatisées. C'est-à-dire qu'au placement de l'enfant dans nos structures, le juge aussi contribue au maintien des liens et donc met en place ou demande à ce que des visites médiatisées soient mises en place pour que les parents puissent rencontrer leurs enfants en présence d'un tiers qui est moi. Et cette posture est légèrement différente ou totalement différente de celle d'un médiateur familial.
Noémie Thiesson, même question pour vous, pour la Maison des familles de Vau-en-Velin. Comment est-ce que les familles, les parents vous rejoignent? Est-ce qu'ils sont envoyés par des professionnels de l'enfance, par exemple?
Alors, ce qui est intéressant et ce qu'on propose au sein des maisons des familles, l'idée, c'est de dire la personne nous dit ce qu'elle a envie de nous dire au moment où elle a envie de nous le dire. La question de la temporalité, elle est quand même assez centrale, de laisser le temps aux gens de pouvoir se raconter, se livrer, se dévoiler quand ils le souhaitent. Donc, très régulièrement, quand une famille arrive, on ne va pas lui demander « Alors, bonjour, qui est-ce qui vous oriente ?» On va lui dire déjà « Bonjour, comment tu t'appelles ?» Ouais. Et elle va nous donner son prénom et nous, à notre tour, on va donner notre prénom. Et tout à l'heure, je parlais d'authenticité et là, on est vraiment dans la réciprocité de la relation. Et puis, au fil du temps, eh bien, la personne, elle va décider de se livrer quand elle le souhaite. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir au bout de 3-4 mois, bah, en fait, la personne qui m'a orientée, c'est la conseillère conjugale. Mais je préférais pas le dire parce que j'étais un peu mal à l'aise. Et du coup, aujourd'hui, oui, on peut dire que de nombreux partenaires, travailleurs sociaux nous orientent les familles à la maison des familles de Vaux-en-Velin. Mais en tout cas, on ne le sait pas dès la première rencontre.
Et ça veut dire qu'ils arrivent avec des a priori quand même dans les maisons des familles. Est-ce que c'est pour eux, c'est quand même difficile?
Évidemment. Enfin, ouais. Évidemment. Et l'équipe des maisons des familles ont toujours ça en tête, l'idée de dire quand une famille arrive, on ne se rend pas compte l'effort que cela demande de venir dans un lieu. Et ça, c'est important de se le rappeler. Et donc, les familles, quand elles viennent, elles s'assoient, elles prennent un café, ça paraît très anodin. Et en même temps, la rencontre, elle se passe là. L'alliance, elle se passe à ce moment-là. Elle se passe au fil du temps. Et c'est après qu'on va pouvoir, parce que l'alliance est stable, parce que la relation est tissée, qu'on va pouvoir parler de parentalité.
Et ces familles, elles arrivent dans quel état d'esprit? Est-ce qu'elles ont envie d'être aidées? Est-ce qu'elles sont motivées pour aller mieux, pour renouer du lien?
C'est compliqué. Ouais.
Chaque parcours est différent,
chaque
j'imagine.
Chaque parcours est différent, mais vous imaginez bien qu'une famille ne va pas ouvrir la porte en disant « Bonjour, j'ai besoin d'aide ». Et puis, à la limite, on va s'efforcer. On va s'efforcer de ne pas aller sur ce terrain-là. Parce que de nombreuses structures, de nombreux dispositifs, on peut leur demander de se raconter, et encore une fois, de se raconter. Nous, on va essayer une autre porte d'entrée. Évidemment, au fil du temps, on s'aperçoit, on voit bien qu'il y a besoin de soutien. Mais ce qui est intéressant dans ce type de programme, c'est que c'est le collectif qui va apporter. Et qu'on n'est pas là en train de dire « ce que vous faites, c'est pas bien ». On est qui pour dire ça ? On part vraiment du principe que les gens ont de très bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Par contre, le collectif va être source d'inspiration, de se dire bah en fait, on peut faire autrement. Et à un moment donné, la personne pourra dire bah en fait, moi je décide de faire ça et c'est moi qui le décide.
Et ça, vous le sentez, ce déclic ?
Bien sûr, ouais. On le voit et c'est ça qui est puissant.
Vous avez l'air passionné. C'est très agréable à entendre. Martin Menu, il y a un mot d'ordre peut-être pour le dispositif Écoute Info Famille. Voilà, c'est la confidentialité et l'anonymat.
C'est la confidentialité et l'anonymat, c'est-à-dire que nous, les deux seules questions qu'on pose aux personnes qui nous appellent, c'est le département d'où elles nous appellent, et puis leur lien avec le jeune dont ils veulent parler. On n'a pas cette notion d'a priori. C'est vrai que quand j'entends Noémie parler de la maison des familles, ça évoque fortement ce qu'on fait à Écoute Info Famille, avec quand même une toute petite différence, c'est que nous, notre intervention, elle se situe sur une fenêtre de temps très très réduite, puisque les appels, ils durent... Alors si on exclut un certain volume d'appels qui dure 5 minutes, parce qu'en fait les gens veulent simplement un renseignement, même si systématiquement on ouvre un peu la porte sur alors pourquoi vous demandez ce renseignement, etc. Les appels peuvent durer entre, je dirais, 15 minutes et puis, à de rares exceptions, plus d'une heure. Donc en fait, on a une moyenne de 30-40 minutes pour faire tout le schéma que Noémie a décrit, c'est-à-dire accueillir la personne, l'écouter, sans jugement, sans position haute de savoir que nous on sait, parce qu'on ne sait pas. De la même façon, dans les maisons des familles, les gens viennent avec ce qu'ils racontent aux professionnels. Bah, nous aussi, en fait, on est tributaires du récit de vie que nous fait la personne. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'ouvrir aussi un espace, alors un espace qui se passe par la parole et par l'écoute. On ne voit pas les gens, on ne connaît pas leur nom. Et dans cet espace-là, qui est aussi extrêmement rassurant pour les familles, parce qu'en fait, on touche des familles. Alors, de tous les milieux, mais moi je suis particulièrement frappé par deux milieux particuliers. C'est d'abord des familles assez aisées pour qui c'est très difficile de dire que ça va mal, pour qui c'est très difficile de dire que avec les enfants c'est pas si simple, ou mon neveu, mon petit-fils, etc., je suis inquiet pour lui. Et puis à l'autre extrémité du spectre, c'est des familles qui sont en très très grande précarité, en très grand isolement, qui ont déjà eu des expériences avec des travailleurs sociaux, qui sont souvent des mauvaises expériences, et le fait de pouvoir appeler quelqu'un sans rien dire du tout, enfin en tout cas en racontant ce qu'ils ont envie de raconter, s'ils ont envie de raccrocher au téléphone et nous couper le téléphone au nez, ils peuvent le faire. Et voilà, ça ouvre une porte pour toutes ces personnes-là.
Noémie Thiesson, même tableau pour vous, des familles, on va dire, à parcours divers, ou alors, vu qu'on est à Vau-en-Velin quand même, c'est, on va dire, c'est une banlieue lyonnaise. Est-ce que vous avez beaucoup de familles en situation de grande précarité ?
Alors, je ne veux pas tomber dans le cliché Vau-en-Velin, ce n'est qu'un territoire. Il y a des réalités.
Il y a des réalités, voilà.
Évidemment,
il y a
une réalité.
Il n'y a pas de complètement. Jugement, bien sûr.
Mais il y a une réalité. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on s'est dit que ça avait du sens d'ouvrir une maison des familles sur le territoire de Vau-en-Velin, sachant que, en tout cas, sur les maisons des familles, il y a quand même une attention particulière pour les familles qui traversent des situations de précarité. Donc, parce qu'aujourd'hui, sur le territoire de Vau-en-Velin, il existe d'autres dispositifs où d'autres familles peuvent interpeller. Mais en tout cas, à la Maison des Familles, il y a quand même cette attention pour les familles qui rencontrent des situations de précarité.
Ousmane Sougoufara, comment ça se passe pour la médiation familiale ? Donc, vous êtes, je crois, dans un espace famille, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle.
C'est ça, oui.
Voilà. Et ce sont les parents qui viennent vous voir avec les enfants ou uniquement les parents ?
Alors, j'ai différents scénarios. Hein. Souvent, c'est des jeunes qui viennent me voir pour dire que, à travers par leur éducateur, qu'ils ont besoin de discuter avec leurs parents sur certains points. Je peux avoir des parents qui font la démarche, mais ce qui est important, intéressant, c'est que c'est une démarche volontaire, hein, posée par les parents ou les enfants. Et je rejoins là-dessus Noémie et Martin sur le fait effectivement que ils sont libres, en fait, ils arrivent libres de pouvoir échanger avec entre eux. Et l'objectif, en fait, c'est de leur permettre et de mettre un cadre où ils peuvent échanger sans pour autant reproduire les modes de communication à la maison. Et en fait, plus je disparais dans cet espace-là, mieux c'est. L'objectif final, c'est qu'effectivement, ils puissent discuter sans moi, quoi. Et si on arrive à ça, c'est génial. Et donc, des fois, en arrivant, les sujets sont tellement délicats et difficiles que, bien évidemment, ils ne le portent pas en étendard en rentrant dans le bureau. Ce qui est génial, c'est quand on fait, par exemple, j'appelle ça la liste des courses, sur les sujets qu'on voudrait, sur lesquels on voudrait échanger. Et je mets en rouge à côté sur un sujet en disant, bon, alors quels sont les sujets qu'on ne doit pas aborder ? Mais alors, pas du tout. Je vous le donne dans le mille, effectivement, souvent ces sujets-là reviennent, quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est effectivement, que ce soit les parents, que ce soit les éducateurs ou les jeunes qui font ces démarches-là, quoi.
Ça vous parle ? Ça vous parle, Noémie Thiesson ?
Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Ça fait penser à une réflexion d'équipe la semaine dernière où on se redisait collectivement comment on crée les conditions pour que la personne trouve sa solution. En fait, c'est pleinement ça. Et on n'est pas là pour apporter et dire voilà, comment
faire. Il faut faire ça.
Ouais, et en fait, on va juste créer les conditions pour que les personnes trouvent leur solution.
Et il y a de la médiation familiale qui est proposée dans les
non.
maisons des familles.
Alors, oui et non. Non à Vau-en-Velin, pardon.
C'est compliqué.
Non, pardon. Non à Vau-en-Velin. Mais il existe effectivement, si je ne me trompe pas, à Grenoble, il y a un service de médiation familiale.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de médiateur familial, familiaux d'ailleurs, qui accompagne les personnes dans les maisons des familles. Par contre, vous êtes entouré de professionnels quand même, ou ce sont des bénévoles qui travaillent avec Apprentis d'Auteuil ?
Alors, au sein des maisons des familles, c'est une équipe de salariés. Grossièrement, c'est 2 à 3 salariés pour à peu près 15 bénévoles. Et ce qui est important pour nous, c'est de dire que l'équipe, elle est vraiment composée de salariés, de bénévoles, de stagiaires. On accueille aussi régulièrement des stagiaires de formations différentes. C'est intéressant d'avoir des stagiaires parce que ça vient nous questionner, ça vient nous percuter dans notre pratique. Ça vient redire comment on fait pour en arriver là. Voilà, et des services civiques. Et donc, l'équipe a une certaine responsabilité professionnelle, évidemment, mais à des réalités différentes, des horizons différents. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse de la rencontre.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense, donc j'agis pour participer à cette émission. Dites-nous si vous avez déjà rencontré des difficultés avec vos enfants, hein, dans l'éducation, bien sûr, ou si vous en rencontrez actuellement. Comment vous faites ? Est-ce que vous êtes accompagné peut-être par un dispositif apprenti d'Auteuil, par une maison des familles, ou alors par une association ? Venez nous parler de tout ça au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. On va accueillir tout de suite notre chroniqueuse. Et Stéphanie Combes nous a rejoint, journaliste au magazine La Vie. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Alors quels sont les sujets abordés cette semaine dans le cahier Espérance ?
Alors il y en a trois, comme chaque semaine. Tout d'abord, je vous emmène à plus de 12 000 km de la France grâce à un reportage d'Alice Papin réalisé en Afrique du Sud. Là-bas, une association apprend aux enfants des townships à se familiariser avec l'océan et en premier lieu à nager. L'association Sentinel Ocean Alliance a été fondée en 2020 par Frank Salomon, de mère allemande et de père sud-africain. Il explique, je le cite, « Mon premier objectif est d'offrir aux jeunes des quartiers défavorisés la jeunesse que j'ai eu la chance de vivre. En Afrique du Sud, vous verrez rarement des personnes noires sur les plages et encore moins dans l'eau, car peu d'entre elles savent nager. Et cela pour des raisons à la fois culturelles et historiques. » Franck a donc décidé de changer la donne et désormais, toutes les semaines, près de 250 écoliers viennent suivre son programme après la classe. Un programme entièrement gratuit qui dure 16 semaines et qui enseigne aussi deux volets théoriques, connaissance du monde océanique et sensibilisation écologique.
Un beau programme, Stéphanie, à l'autre bout du monde. Et on va revenir en France quand même pour une initiative aussi.
Exactement. Alors cette fois-ci, c'est une initiative destinée aux jeunes âgés de 17 à 22 ans, organisée par le CLER Amour et Famille. Mmh. Cette association chrétienne leur propose une saison estivale qui s'appelle « Oser être soi », afin de leur transmettre des outils de communication et de développement personnel au travers d'échanges en petits groupes, d'ateliers, de jeux de rôle, de veillées. Le but, apprendre à mieux se connaître, se détacher du regard des autres, utiliser la communication non violente, dessiner son projet de vie, des fondamentaux ô combien nécessaires à l'heure des grands choix qui orientent une vie. Et les jeunes recommandent la formule, comme Augustin, 19 ans, qui y a déjà participé. « La première fois, j'y suis allée en traînant des pieds, avoue-t-il, mais j'ai tellement aimé que je me suis inscrit à la suivante. » Alors cette année, la session aura lieu du 18 au 23 juillet à Compiègne et les inscriptions sont ouvertes sur le site claire.net.
Un dernier mot, Stéphanie, sur le troisième article.
Et direction cette fois-ci l'Est de la France pour découvrir un focus original sur l'association Respire. Cette dernière organise des marches sportives ouvertes à des randonneurs, des étudiants isolés et des personnes réfugiées. Lisette Griès, qui a réalisé ce reportage, était au rendez-vous des 16 km. Elle a rencontré la trentaine de marcheurs au départ de Saverne, dans le Bas-Rhin. Marcher ensemble permet de tisser des liens, explique la fondatrice Brigitte Vialat, qui organise chaque week-end une randonnée interculturelle et solidaire. Nouradine, demandeur d'asile soudanais, le confirme. « Ici, je me suis fait des amis, j'améliore mon français et je découvre de beaux paysages. » Alors, avis aux auditeurs qui habitent la région et voudraient se joindre à eux.
Eh bien, on peut leur souhaiter une bonne route, hein. Merci beaucoup, Stéphanie Combes, pour ce programme varié à retrouver dans le magazine La Vie en kiosque et dans vos boîtes aux lettres dès demain, Ascension oblige. Et puis, de toute façon, on peut aller retrouver plus d'informations également sur lavie.fr. On continue d'évoquer la parentalité avec tous ces dispositifs et ces programmes qui existent en France avec Apprenti d'Auteuil. Nous sommes accompagnés de trois invités. Thiessen. Noémie Thiessen, je rappelle que vous êtes la responsable de la Maison des Familles à Vaux-en-Velin. Ousmane Sougoufara, vous êtes médiateur familial pour Apprentis d'Auteuil. Et puis Martin Menu, chef de service d'écoute Info Famille. Alors Martin, justement, on parlait de la confidentialité tout à l'heure et de l'anonymat. Il y a quand même une donnée que vous avez, c'est la localisation de la personne. Pourquoi d'ailleurs ?
Eh ben, ça nous permet de savoir vers qui orienter les familles une fois qu'on a pu évoquer avec elles leur situation. Souvent, les familles nous appellent. Souvent, la porte d'entrée, c'est simplement un renseignement. Des précisions sur un établissement, des précisions sur une formation. Et en fait, dans l'échange, on détricote la situation, on apprend à connaître un peu mieux la situation de l'enfant, etc. Et puis, souvent, vient d'autres types de questions. L'appelant, que ce soit la famille ou un proche, va donner des détails sur la situation de l'enfant, son parcours scolaire, ses difficultés personnelles qu'il peut avoir. Et du coup, ensuite, on oriente les dispositifs selon, évidemment, la géographie de la personne. Aujourd'hui, l'Île-de-France est extrêmement représentée dans nos appels. Ça représente 2/3 des appels. Et ensuite, c'est essentiellement les grandes villes, Lyon et Marseille. L'Ouest est peu représenté dans nos appels, ainsi que le centre de la France. Ça correspond pas tout à fait à la géographie des établissements d'apprentis d'Auteuil, mais on travaille à ce que, justement, notamment dans les milieux plus ruraux, on puisse être mieux connu, de façon à ce que les personnes, les familles puissent nous appeler.
3000 appels par an, hein, quand même, pour cette plateforme téléphonique Écoute Info Famille. Alors, si jamais vous entendez une situation qui est extrêmement inquiétante, quels sont vos pouvoirs, en fait, à ce moment-là? Est-ce que vous ne pouvez rien faire, mais c'est seulement à l'appelant d'agir? Qu'est-ce qui est en votre possession, pour le coup? Quand il y a une situation inquiétante.
On ne peut pas complètement rien faire. Alors, ouais. Il y a deux types de situations inquiétantes. Il y a d'abord des situations... Alors, d'abord, pour commencer, j'aurais précisé que c'est extrêmement rare.
Oui.
Ça représente 10 d'appels par an, pas plus. Donc, sur les 3000, c'est une toute petite portion. C'est évidemment des appels qui nous préoccupent particulièrement, sur lesquels, les écoutants, on peut revenir dessus en réunion d'équipe traiter ça au mieux. Donc, je vous disais, il y a deux types d'appels. C'est ce qui est arrivé récemment, c'est des situations inquiétantes qui nous arrivent pendant l'appel. Donc, typiquement, un parent qui appelle pour parler de son enfant. Souvent, les parents appellent quand l'enfant n'est pas là. Et en l'occurrence, l'exemple que j'ai en tête, l'enfant rentre au domicile pendant l'appel, réalise que son parent est en train de parler de lui et une dispute éclate. Alors, je vous disais tout à l'heure que les appels, ils sont anonymes, ils sont complètement anonymes, parce qu'en fait, à partir du moment où l'appel se termine, le numéro de téléphone disparaît de nos écrans, mais pendant l'appel, on a le numéro de téléphone, justement pour permettre de répondre à ce type de situation, et là, dans ces cas-là, on n'intervient pas nous-mêmes, on renvoie vers les services de police. Mmh. Alors, vous allez me dire, vous savez pas où habite la personne, vous avez raison, donc dans ce cas-là, on appelle le commissariat de la grande ville du département, on donne le numéro de portable qui est apparu sur notre écran, et la situation est traitée.
Ouais. Mais
ça, c'est le premier type.
Pardon. Oui, je vous en prie.
Je vous en prie.
Pardon, je reprends.
Ouais, je suis désolé, c'est des situations longues.
Mais oui, ce sont des situations longues, mais qui sont très rares. Hein, vous venez de
Dire. Oui, j'insiste là-dessus. Ouais. C'est pas du tout l'essentiel de nos appels. On a des appels qui sont plutôt. Alors, tendu dans un premier temps, parce que quand les parents appellent chez nous, c'est qu'en fait, ils sont à bout de ressources. Ils ont déjà tout essayé pour eux. Ils ont déjà mobilisé leur réseau d'amis, de famille, de connaissances. Ils ont été tapés à la porte de tous les établissements. Ils n'ont pas de réponse, ou en tout cas, ils ont des réponses qui leur conviennent pas. Et dans ces cas-là, c'est vrai que Écoute Info Famille, c'est une solution. Alors, c'est pas une solution, on ouvre un espace de dialogue. Et en général, on réussit au moins sur le temps de l'appel à apaiser la personne et à lui proposer d'autres pistes ou à revoir un peu les choses, à faire, vous connaissez l'expression, le pas de côté qui permet de voir un peu les choses autrement. Là aussi, j'ai une situation en tête d'une maman qui nous appelle parce que sa fille ne souhaite pas faire le métier que sa maman voudrait qu'elle fasse. Et c'est un déchirement. C'est un déchirement pour la mère, parce qu'il y a une tradition familiale d'exercer ce métier. Et c'est un déchirement pour la fille, qui voit bien qu'elle trahit, entre guillemets, les aspirations parentales. Donc, forcément, c'est source de tension. Et dans ces cas-là, les écoutants d'Écoute Info Famille peuvent aider la mère à prendre conscience aussi de ce qu'elle est en train de jouer avec son enfant.
Donc il y a un besoin avant tout d'écoute, d'oreille. C'est pareil pour vous, Noémie Thiesson ?
Oui, évidemment. Et en même temps, je crois que les collègues le disaient tout à l'heure, c'est on peut rester en silence, on n'est pas obligé de parler. Et cette question d'écoute, elle est aussi forte au sein du collectif au sein des maisons des familles, des groupes de parole. Il y a de nombreux groupes de parole qu'on appelle évidemment IAP. Et l'idée, c'est de dire, en fait, je peux m'apercevoir que d'autres traversent, vivent des choses qui sont similaires aux miennes. Et du coup, je me sens plus forte, je me sens moins seule face à cette difficulté. Et ce qui est aussi intéressant dans ce collectif, c'est de dire, moi, à un moment donné, je peux aussi apporter une solution. Je peux effectivement traverser une difficulté, mais je peux aussi être en capacité d'apporter une solution et d'éclairer un autre parent. Et ça, c'est puissant.
Et IAP, on va en parler dans quelques minutes avec Anne Kerléau qui présente cette émission Il n'y a pas de parents parfaits chaque mercredi sur RCF. On fait une petite pause. À tout de suite sur RCF. <musique> 10h31 sur RCF. On va écouter Dua Lipa qui est en concert d'ailleurs à Paris il y a quelques jours. Et vous en profitez pour nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de parentalité, peut-être des difficultés que vous avez pu rencontrer avec vos enfants. Dites-nous aussi comment vous avez été accompagné. On vous attend également par mail à direct@rcf.fr.
Somebody like you used to be afraid of loving what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 Again. So many nights my tears fell harder than.
C'était Dua Lipa sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Toujours avec nos trois invités, Noémie Thiesson, responsable de la Maison des Familles de Vaux-en-Velin, Martin Menu, chef de service d'écoute Info Famille, et Ousmane Sougoufara, médiateur familial à Apprenti d'Auteuil.
Yap, y a pas de parents parfaits, l'émission des familles sur RCF. Une émission présentée par Anne Carléo.
Bonjour Anne Carléo.
Bonjour Melchior, on fait un
Yap alors. On inverse les rôles. Il n'y a pas de parents parfaits, c'est une émission qui existe depuis septembre 2021, si je ne me trompe pas, avec Apprenti d'Auteuil. C'est quoi le principe de YAP ?
C'est des parents qui témoignent de leur quotidien, de leur joie, de leurs difficultés, de leurs questions et aussi des solutions qu'ils ont trouvées. Et il se trouve que c'est des parents des maisons de famille, en particulier celle de Vaux-en-Velin, que dirige Noémie. Et d'ailleurs, c'est en discutant avec des parents de la maison des familles de Vaux-en-Velin et avec Noémie qu'est né le projet. Parce que YAP, en fait, c'est pas nous qui avons inventé ce super titre.
C'est ce que Noémie disait tout à l'heure.
Ouais. Et on a demandé si on pouvait le récupérer parce qu'on trouvait ça trop bien. Il y a d'abord parce que ça résonne bien. Et puis, il n'y a pas de parents parfaits. C'est quelque chose, on se disait, c'est les parents de Vaux-en-Velin, ils peuvent se dire ça. Et c'est rassurant, sans doute, aussi, de se dire, je suis pas parfait, mais je suis un parent. Et ça va bien quand même, mais des parents qui vivent en ville, à la campagne, partout, quoi. C'est vraiment une expérience commune. Et on s'est dit, à la Maison des Familles de Vaux-en-Velin, je trouvais qu'ils avaient une longueur d'avance parce que ce collectif-là dont parlait Noémie, la force du groupe, en fait, moi, ça me frappe à chaque fois. J'arrive à la Maison des Familles, j'ai entendu des parents raconter ça, je pense à Sana, par exemple, qui débarque à Vaux-en-Velin, qui arrive de Corse, je crois, qui connaît personne, ça se passe avant le confinement. Et en fait, Sana, elle renaît en rencontrant des parents, d'autres, et en créant des liens très très forts. Et je crois qu'aujourd'hui, vous la voyez moins à la Maison des Familles, parce que ça a engendré plein de trucs, elle s'est insérée dans la vie en s'appuyant vraiment sur ce collectif-là. Et là, moi je me dis, il y a un truc très très fort et qui est à partager avec d'autres. Et c'était ça un peu l'intuition en fait de YAP. Mais c'est vraiment en dialogue, je repense à la première rencontre avec donc Noémie, on s'était déjà rencontrés avec Noémie, mais deux mamans qui étaient venues participer, trois à l'émission Vous avez dit fragile. Il y avait Myriam, Ralia et
Karima.
Et Karima. Et Karima, on l'a moins vue depuis, c'est pour ça que je m'en souviens moins, et leurs trois enfants. Et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, on a envie de continuer à faire des choses ensemble.
Donc c'est chaque mercredi sur RCF, YAP, c'est une série d'épisodes, et on peut réécouter également sur rcf.fr. Donc des témoignages qu'on entend beaucoup dans l'émission.
Alors, pour moi, c'est plus que des témoignages, parce que, par exemple, dans des émissions comme Témoins, c'est quelqu'un qui vient raconter son expérience de vie, ou comme une conversion, ou d'autres, dans Visage. Il y a plein d'émissions comme ça à l'antenne. Mais là, en fait, c'est vraiment l'intelligence collective. C'est-à-dire, il y a un parent qui témoigne de quelque chose, et puis les autres disent, ouais, moi, ce que tu dis, ça me fait penser à ça, j'ai trouvé telle solution, et du coup, ça met en route la réflexion. Et c'est vraiment une parole collective qui fait la force, quoi. Et qui, et du coup, une diversité de paroles aussi, et qui va donc pouvoir parler à toutes sortes de parents. Souvent, Noémie leur dit, pensez à... Parce qu'on a toujours le souci de bien s'adresser à des personnes qui écoutent et qui sont juste, qui ont en commun avec eux et elles, parce que c'est souvent surtout des mamans, mais il y a aussi des papas, qui ont en commun d'être parents, mais qui ont des réalités de vie, de sociologie complètement différentes. Et donc, Noémie leur dit souvent, pensez à, par exemple, Monique, qui est dans sa cuisine, qui vit dans un petit village à l'autre bout de la France. Et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Donc il y a ce souci-là de partager vraiment de manière très large. Et moi, je suis persuadée d'une chose, c'est qu'il y a une force qui se vit là. Et en fait, au-delà du fait qu'il s'agit de donner la parole aux parents qui s'expriment et que ça conforte aussi une confiance en soi, ils le disent d'ailleurs, et ça c'est important. Mais moi, je pense que aussi nous et les auditeurs, si on se prive de la parole de ces personnes-là, il nous manque quelque chose. Et par exemple, moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est d'entendre, je crois que c'était Myriam, dans la première série, c'était « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et l'idée, c'était de se dire « Nous, parents, on n'élève pas seuls nos enfants, mais il y a plein d'autres gens qui contribuent ». Et en chemin, Myriam a dit « Mais par exemple, moi, à l'école de mes enfants, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de français de souche ». Et ça, ça me manque et ça manque à mes enfants. Et moi, je suis persuadée que pour des gens qui vivent ailleurs et qui sont peut-être français de souche, eh ben, eux, ça, ça, savoir ça, que ça manque à des parents qui vivent dans les quartiers de rencontrer des gens comme eux, eh ben c'est important pour faire société. Et si on ne fait pas ça à l'antenne, à mon avis, on se prive d'une dimension. Ouais.
Voilà. Et les enfants, ils sont où dans cette émission Il n'y a pas de parents parfaits. Est-ce qu'on vous leur donne la parole ou alors vraiment le but, c'est justement d'entendre le quotidien de ces parents qui parfois rencontrent des vraies difficultés?
Bah, on s'est un peu cherché. Alors au début, les enfants ont eu la parole, mais le truc, c'est que ça s'improvise pas, qu'il faut du temps pour que la parole puisse se structurer. Et on l'a pas encore trouvé, donc on a arrêté ça. Mais rien ne dit que ça se refera peut-être pas, parce qu'il y a quand même, enfin, dans la parole des enfants, il y a, je sais pas, moi je trouve qu'il y a une vraie poésie, il y a une vraie appréhension de la réalité que nous on a perdu en grandissant et qui nous enrichit et puis qui met de la poésie, de l'humour, enfin et c'est beau les paroles d'enfants. Ça,
il faut réussir à les faire parler. C'est vrai qu'en radio, parfois, c'est difficile. Hein.
Ça se fait, mais il faut un peu de temps. Et là, on ne l'avait pas suffisamment.
Noémie Thiesson, vous avez l'occasion de l'écouter souvent, cette émission.
Évidemment.
Oui.
Ah oui, de l'écouter et puis de voir aussi tout ce cheminement, ce temps de préparation qui est important aussi en amont et puis ce temps d'enregistrement. Elle produit tellement de choses, elle a produit tellement de choses cette émission. L'émission, mais aussi toute cette phase de préparation. Quand j'entends, enfin, j'ai en tête une maman qui longtemps est venue aux émissions sans parler, qui a juste écouté et puis qui un jour a dit en fait je vais parler. Et elle a parlé lors de l'enregistrement et puis elle s'est écoutée. Et je me souviens, elle est revenue nous voir en nous disant mais en fait je me suis écoutée. Et je parle bien. Je parle
c'est
bien
vrai
français.
Qu'elle parle bien.
Mais oui. Et du coup, ce que ça produit concrètement, on se dit, bon, bah super, elle s'entend. Mais ce que ça a produit, c'est qu'aujourd'hui, quand elle va aux réunions parents-prof, elle lève le doigt et elle dit, moi, j'ai quelque chose à dire. Et du coup, elle ose parler. Et c'est ça qui est puissant. C'est que ce qui se passe, ce que ça produit, ce qui se passe au sein de la maison des familles, au sein de RCF, ça va se multiplier à l'extérieur. Ça va. Voilà, il y a quelque chose qui se produit à l'extérieur. Et ça, c'est génial.
Donc, Anne, on vous retrouve demain, du coup, pour YAP. Est-ce que vous avez le sujet ou je vous pose une colle, là?
Tout n'est pas dans l'ordre.
Parce que c'est la dernière série, c'était sur la confiance.
Ouais. Voilà. Et ben j'ai un trou. Donc ça sera la surprise, sauf si Noémie vient à mon secours.
Eh bien oui, c'est la dernière émission qu'on a enregistrée. Est-ce que c'est prendre soin de soi? Comment prendre soin de soi pour
Non,
prendre... pas encore.
Si.
Ah, bon, bah, suspense.
Bon. À voir.
Attendez, vous me faites peur parce que si c'est celle-là, elle n'est pas prête. Elle que j'aille me mettre au travail.
Je vous confirme, elle n'est pas prête, mais on vous entendra demain dans Il n'y a pas de parents parfaits, cette émission à réécouter sur rcf.fr. Merci beaucoup d'être venu en studio pour parler de cette riche émission qui fait beaucoup de bien, hein, Noémie.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Et puis qui crée quelque chose au sein du collectif, alors individuellement, effectivement, chez chacun, et puis même au niveau de l'équipe. Enfin, moi, ce qui est fantastique, c'est qu'à un moment donné, ses parents sont experts. Ils vont non pas se raconter dans ce qu'ils ont pu le traverser, c'est qu'à un moment donné, on va créer les conditions pour qu'on puisse dire, en fait, tu as quelque chose à nous apporter. Tu as quelque chose à apporter à Monique et dans sa cuisine. Et ça produit quelque chose.
Pourquoi Monique ?
Je ne sais pas.
Martin Menu, vous avez eu l'occasion de l'entendre, cette émission, il n'y a pas de parents parfaits.
Pas encore. Je suis désolé, mais ça me donne extrêmement envie. Ouais. Et je m'y mettrai dès l'émission de demain, puisqu'effectivement, comme on ne connaît pas le sujet, c'est intéressant. Mmh. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Noémie avec cette maman qui lève la main en classe. Nous, ce qu'on observe à Écoute Info Famille, c'est qu'en fait, cette question de la scolarité des enfants, c'est le premier motif d'appel. Ça représente un tiers des appels qu'on reçoit qui sont d'abord destinés à ça. Donc, c'est les résultats scolaires des enfants qui commencent à descendre un peu, voire décrocher complètement dans certains cas. C'est des problématiques sur l'orientation scolaire. Et puis, on a aussi toute cette dimension si importante des enfants à profil particulier pour lequel la réponse aujourd'hui n'est pas tout à fait adaptée. Et les enfants et les parents, pardon, c'est un parcours du combattant pour eux que de trouver le bon dispositif. Et c'est une sacrée jungle pour s'y retrouver. Et c'est vrai qu'à un moment, appeler Écoute Info Famille pour avoir un peu des explications plus précises sur c'est quoi un IME, c'est quoi une Ulysse, etc. Ça peut aider beaucoup.
Ousmane Sougoufara, et vous l'avez entendu cette émission?
Bon, je vais y mettre dès demain.
Oh là là, et alors
bon, on espère.
Je suis vraiment désolé, mais sincèrement, je vais y mettre parce que c'est très, très intéressant. Mais
peut-être d'un point de vue personnel, Ousmane Sougoufara, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'entendre en tant que médiateur familial tous ces témoignages?
Mais c'est ce que je vis dans l'espace de médiation. C'est-à-dire que si on prend juste l'exemple de cette scolarité où les parents sont très angoissés et puis reportent ces angoisses, leurs attentes, leurs rêves pour leurs enfants. Et il suffit que ça ne soit pas en adéquation avec ce que l'enfant attend pour qu'on se retrouve sur des points de tension et de pression. Je veux dire que pour rejoindre aussi, que ce soit Noémie ou Martin, les parents sont souvent pris dans ce qu'ils attendent de leurs enfants. Ils sont pris là-dessus et ils mettent la pression à leurs enfants. La difficulté majeure, elle est de pouvoir faire identifier aux parents que c'est leur souhait, c'est leur besoin qu'ils transfèrent chez leur enfant. Et le travail consiste aussi à déculpabiliser les parents. Pas les déresponsabiliser, mais vraiment déculpabiliser sur le fait que, notamment, que ce soit à l'école ou soit dans l'éducation, et qu'on pense qu'on n'est pas bon, c'est qu'on a oublié à un moment donné qu'on avait ces compétences-là. Et l'idée, c'est de partir de là, c'est de les remettre en selle et de leur rappeler qu'ils ont cette compétence-là. Voilà, c'est quelque chose qui est essentiel au-delà de l'écoute, c'est de permettre à ces parents-là de retrouver ces compétences qu'ils avaient déjà.
Oui. On a un message de Jacqueline de Gap qui voulait souligner l'efficacité de la Fondation Apprenti d'Auteuil et tous ses dispositifs. Voilà, prenez ça pour vous et pour toutes les équipes. Noémie Thiesson, combien de temps peut durer un passage par la Maison des Familles?
Ah, c'est très aléatoire. Nous, on a 4 ans d'ancienneté, 2 ans avant Covid, 2 ans de Covid. Donc, ouais, c'est un peu particulier, si je peux me permettre. Ouais. C'est très aléatoire. Il y a des familles qui vont venir très peu de temps parce qu'à un moment donné, il suffit juste d'un petit tremplin pour se saisir d'autre chose. D'autres familles qui vont venir plus régulièrement. Ce qui est important, en tout cas pour nous, et ce qu'a montré vraiment, et ce qu'a mis en valeur l'AMRI, la Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion, ils ont élaboré un rapport avec les parents, faire grandir les enfants, c'est de dire comment au sein de nos structures, et je pense que pour Martin et pour Ousmane, c'est la même chose, comment on consolide, on sécurise dedans pour aller dehors. Notre intention, notre ambition, c'est bien que ces jeunes, que ces familles puissent être sur l'extérieur, puissent identifier ce réseau à l'extérieur. Mais à un moment donné, quand on rencontre des parcours de vie, ben il faut sécuriser.
Il y a un moment où vous vous dites « hop, c'est bon ». On y est arrivé.
Ce qui est génial, c'est quand les familles. Alors oui. Ce qui est assez fantastique, oui, c'est d'assister tous les jours à
des petites victoires du quotidien.
Mais il y en a tellement. Et comment on se positionne comme observateur et comment aussi on en dit quelque chose aux familles. On en dit, bah, en fait, merci de ça parce que là, tu nous donnes à voir ça. Et ça, c'est important. Et ce que disait Ousmane tout à l'heure, et je trouve que ça dit beaucoup de la question de la posture. Comment on regarde les gens avec leurs compétences? Comment on s'appuie sur les compétences? Et comment on ne vient pas pointer du doigt les difficultés? Il y en a, certes, mais comment on s'appuie sur ces compétences?
Ousmane, vous confirmez?
Tout à fait. Le plus difficile, c'est qu'on est tellement pris, les familles sont tellement prises dans ce conflit-là, dans ces tensions-là, qu'ils en oublient leurs compétences. Mmh. Et donc, l'idée, notamment pour ces, quand les éducateurs du RAMIX, avec qui je travaille beaucoup, me viennent en disant, bon voilà, j'ai un problème avec tel jeune qui voudrait discuter avec son parent sur tel sujet, tel autre, on se rend compte tout de suite, dans les échanges, on se rend compte qu'en fait, on ne s'écoute plus parce qu'on est sous tension, parce que le conflit est hyper présent et chacun reste dans sa carte du monde qui pollue la communication, qui fait que, bon, voilà, on se parle plus. Et l'idée est vraiment de venir éclairer sur ce qui fait qu'on ne s'entend pas. Et d'abord ça. Et après, seulement quand on se rend compte qu'on peut se parler, on rappelle par des outils, par exemple des histoires communes où on se rend compte que la compétence, elle était là. Des enfants, ses parents et ses familles arrivent à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire avant d'arriver chez nous. Et donc, tout se passait bien à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment précis, les compétences étaient là, la situation familiale faisait que. Et puis, on a cet incident qui vient frapper la famille et qui vient dérégler tout ça. Donc, l'idée est quand même de pouvoir aller rechercher ces compétences-là et de permettre à chacun de reprendre sa place et de pouvoir évoluer ensemble. Le truc n'est pas de recréer le lien quand il est démoli, non. L'idée, c'est
de trouver des clés
à nouveau. Oui, et puis surtout, le lien n'est pas quelque chose d'uniforme. l'expérience de vie fait que ce lien peut être reconstruit par ailleurs, autrement, et permettre à tous ces gens-là d'être en mouvement. C'est hyper important pour les familles, de savoir que, voilà, il n'y a pas de parent parfait. Et cette phrase qu'on entend tout le temps qui dit « je fais ce que je peux », eh bien, c'est ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et le fait de pouvoir échanger les expériences, de pouvoir voir qu'on n'est pas seul à avoir ces types de difficultés, mais mon travail, entre autres, c'est aussi de leur permettre de reconnaître que ces compétences-là sont là et de pouvoir reconnaître leurs spécificités. Et c'est hyper important parce que sinon, je ne pense pas qu'il y ait eu de mode d'emploi sur le parent parfait. J'en ai pas encore vu passer. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment pour nous, c'est ça.
Mais Noémie Thiesson, on fait ce qu'on peut. Donc il n'y a pas de parent parfait, pour reprendre cette phrase. Ça vous accompagne tous les jours quand vous discutez avec les familles, les parents ?
Oui, on fait ce qu'on peut. Et puis partir aussi de ce que disaient les collègues juste avant nous et ce que je rappelais, les parents ont de très bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Les parents qui traversent qui vivent une vie chamboulée, eh bien, quand moi je ne m'autorise pas à dire, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que quand on ne sait pas ce qu'on va manger à la fin de la semaine, quand on ne sait pas où on va dormir le mois prochain, ça vient percuter. Donc évidemment, les familles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Mais l'idée, en tout cas, notre intention, et je pense que c'est notre intention à nous tous, c'est d'élargir la palette. De dire, bah, en fait, il y a ce mode de fonctionnement, j'ai le mien, mais il y en a d'autres. D'élargir, j'aime bien parler de palette de couleurs. Et de se dire, bah, en fait, plus tard, moi je pourrais dire, un jour j'ai goûté du vert, du jaune, mais je suis plus à l'aise sur cette couleur-là.
Martin Menu, vous avez une base de données importante pour Apprenti d'Auteuil avec tous les dispositifs que vous avez. Comment vous faites pour déterminer, pour discerner quand vous avez un appelant, une personne qui rencontre une certaine situation avec un jeune qui a besoin de clés, alors pas de clés comme ça, pas de conseils tout fait, mais en tout cas un dispositif sur lequel s'appuyer. Comment vous discernez quel dispositif irait au mieux ?
Eh ben, d'abord, c'est la capacité professionnelle des écoutants. Notre équipe, elle est composée de 4 écoutants qui sont tous des salariés d'Apprenti d'Auteuil. D'autres associations qui disposent aussi de lignes téléphoniques n'ont pas forcément ce modèle de salariés et peuvent fonctionner avec des bénévoles. Donc c'est pas le choix qui a été fait chez nous. L'équipe, elle est composée de 2 anciens psychologues, d'un ancien éducateur et d'une ancienne enseignante. Et en fait, les parcours professionnels de ces personnes font que au moment de l'échange téléphonique et dans l'espace de co-construction de la solution qu'on essaie d'élaborer ensemble, mais les pistes apparaissent. Encore une fois, c'est dans l'échange avec la personne, mais de la même manière que mes collègues, mais encore une fois, sous une forme beaucoup plus ramassée, puisque l'échange peut durer 20 minutes, 40 minutes ou une heure au plus, on propose d'autres couleurs, d'autres palettes. L'expression de Noémie est jolie. La base de données qu'on a, bien sûr, est particulièrement détaillée pour les établissements de la Fondation Apprenti d'Auteuil, puisque c'est des établissements qu'on connaît bien.
Oui.
Ça nous arrive de se rendre sur place pour voir comment les choses sont, voir à quoi ressemble une chambre d'internat, parce que la personne qu'on a au téléphone, on peut lui dire, écoutez, ça tombe bien, je connais cet établissement, je peux vous dire à quoi il ressemble. Mais c'est pas que la Fondation d'Auteuil, puisque malheureusement, la Fondation d'Auteuil n'est pas encore implantée dans tous les départements de France. Et on s'appuie bien sûr sur tous les dispositifs possibles et existants. Dans leur emploi du temps, les écoutants ont une journée entière par semaine qui est consacrée à ce que j'appelle l'animation réseau. C'est-à-dire qu'ils sont bien sûr au téléphone, mais ils ne reçoivent pas d'appel. C'est eux qui appellent les dispositifs s'assurer qu'on donne aux personnes qui nous appellent l'information la plus ajustée.
On a beaucoup parlé des parents, bien sûr, dans cette émission, je pense, donc j'agis. On a peu parlé des enfants, je trouve. Pourtant, ils sont quand même au cœur du rôle de parent, de la parentalité. Noémie Thiesson, comment on prend soin des enfants dans les maisons des familles ?
Alors déjà, en leur donnant la parole à tout moment. Tout est prétexte à la parole, mais tout, quand je dis tout est prétexte à la parole, c'est donner la parole aux parents et donner la parole aux enfants. Et quand on est sur un collectif et qu'on donne la parole à un enfant pour se présenter face à un collectif, vous imaginez ce que ça peut produire pour l'enfant, mais ce que ça produit aussi pour le parent qui voit son enfant parler comme ça devant tout le monde. Nos regards, tous les regards au sein des maisons des familles sont tournés vers les enfants. Et c'est assez intéressant de se dire, en fait, ce qui nous réunit, c'est nos enfants. Et on souhaite donner ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et à partir du moment où on pose cette phrase-là, on est tous d'accord. Ouais. Donc, l'attention, tout ce qui est fait, la question des repas, de l'ambition, des projets, est tourné évidemment autour des enfants. Et tout à l'heure, on parlait des émissions radio. Effectivement, les choses ont un peu bougé. Mais c'était quand même tellement puissant de donner sur un même sujet la parole aux parents et la parole aux enfants. Et je me souviens de parents qui pouvaient dire oh, « Mais en fait, je ne me rendais pas compte à quel point ce sujet était si important pour mon enfant. » Et du coup, il est essentiel de donner la parole.
C'est aussi le rôle de ces groupes, il n'y a pas de parents parfaits.
Ah oui, ouais. Oui, oui.
Là, il y a du partage d'expériences de données, j'allais dire.
Complètement, complètement. Ouais. Et puis, il y a aussi des instances qui sont importantes. Enfin, dans les maisons des familles, il y a des conseils de maison des enfants ou aussi comment les enfants ont leur mot à dire sur une organisation, ont une intuition, souhaitent y mettre de leurs pattes. Et ça, c'est des instances qui produisent des choses tellement, sur la question de l'estime de soi, tellement valorisant pour les enfants.
Donc ça veut dire que vous leur laissez quand même la possibilité, que ce soit aux enfants ou aux parents, de se dévoiler.
Bien sûr, bien sûr. En sécurisant chacun. En sécurisant chacun, c'est important, sur du collectif comme ça, comment chacun a la possibilité de se dévoiler, mais en le sécurisant lui, peu importe son âge, et en sécurisant le groupe. Parce que des fois, il peut y avoir des propos forts et puissants qui peuvent mettre à mal d'autres parents ou d'autres enfants. Donc l'attention de l'équipe, l'équipe de salariés, de bénévoles, de stagiaires, elle est de dire, en fait, ce que tu me dis là, c'est important. Soit on peut être des fois, on va s'autoriser à stopper la parole et à dire, en fait, ce que tu me dis là, c'est important. Et si tu es d'accord, on va le reprendre plus tard et dans un autre lieu. Ça, c'est une manière de sécuriser la personne et le collectif. Ou alors de s'appuyer sur ce que les uns et les autres peuvent dire.
Et là, la confiance arrive.
Évidemment.
Et là, c'est que du bonheur pour vous.
Bonheur, oui, enfin, du bonheur, mais dans cette réciprocité aussi, de se dire, ok, la personne, on sent qu'il y a des indicateurs qui nous montrent qu'elle se libère ou en tout cas elle dévoile des éléments de confiance, mais ça va dans les deux sens.
En tout cas, on entend tous les trois votre passion et je trouve que ça fait beaucoup de bien aussi à mettre en avant dans cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. Ça passe très très vite, une heure. On a dit beaucoup de choses. Noémie Thiesson, je rappelle que vous êtes donc responsable de cette maison des familles de Vaux-en-Velin. Martin Menu, merci à vous, chef de service d'écoute Info Famille. Je redonne le numéro de téléphone. Hein. Je l'avais promis. 01 81 89 09 50. C'est ça, j'ai bien noté ?
Absolument. Merci
beaucoup. Numéro de téléphone important. Merci également à vous, Ousmane Sougoufara, d'avoir été avec nous.
Ça fait un plaisir. Merci à vous.
Plaisir partagé, médiateur familial pour Apprenti d'Auteuil. Je vous invite grandement à vous rendre sur le site internet apprenti-auteuil.org. Merci à tous les trois. Merci aux équipes de Lille, Paris, et d'ici Tom, Catherine et Robin qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vais vous souhaiter bien sûr une bonne journée avec RCF. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. On parlera de l'impact économique de la guerre en Ukraine ici chez nous. Avec ses soucis de consommation et d'énergie. Bonne journée à tous et à demain.